Il y a 40 ans maintenant, l'équipe américaine de hockey causait la surprise qu'on a ensuite baptisée le miracle sur glace, Miracle on Ice. On se rappelle encore de la description passionnée du descripteur d'ailleurs de NBC, Al Michaels, à l'époque, alors que les Américains étaient sur le point de réaliser l'impossible et qu'on ne s'en pouvait plus de voir ou d'entendre la sirène signifiant la fin du match. Ça fait 40 ans que cette scène avait lieu. Do you believe in miracles? J'ai le frisson encore qui me passe partout sur le corps. J'avais 13 ans quand ce match-là a été joué. C'était un 22 février. Dans les gradins, assistait à ce match-là, le gardien de but Paul Pageau, qui venait de disputer un match avec l'équipe canadienne contre les Tchèques et les frères Stastny notamment. 40 ans plus tard, c'était un grand plaisir pour moi d'accueillir en studio Paul Pageau. Bonsoir, Paul.
Bonsoir.
Paul, est-ce que le frisson te passe encore, même si tu n'as pas joué ce match? Là, tu venais de jouer sur la même glace à Lake Placid, t'assistes à ce match-là qui est devenu le Miracle on Ice. Ça te fait encore quelque chose aujourd'hui?
Évidemment que ça fait des frissons parce que c'était... nous autres, on regardait ça, on a comme l'expression que quand on veut ouvrir un pot de beurre de peanut qui est difficile à ouvrir, puis que quelqu'un casse le ce qui est scellé et tout ça, puis après ça, c'est plus facile pour l'autre personne après. Ben on a pensé qu'on a fait un peu ça pour les Américains. On avait perdu 6-4 contre les Russes, mais les Russes étaient tellement favoris contre tout le monde. Je pense qu'ils avaient compté 35 ou 40 buts contre la Hollande, la Pologne, la Finlande et tout ça. Alors, c'était réellement perçu comme un miracle de pouvoir battre les Russes qui étaient tellement favoris.
Deux jours avant, donc, c'est ça, le résultat du match 6-4 contre l'URSS, Canada-URSS. T'es devant le filet pour ce match-là. As-tu l'impression, puis je sais pas si ça se parlait, je sais pas si vous croisiez les joueurs américains entre les matchs, mais donc il y avait deux jours après ça, donc le miracle sur glace est survenu le 22. T'as l'impression que les Américains sont allés chercher un peu de confiance dans votre résultat?
C'est évident à mes yeux que c'est ce qui est arrivé. Maintenant, jusqu'à quel point que ça a joué un rôle. C'est évident qu'il y a une équipe qui a été préparée. Herb Brooks a fait un travail extraordinaire et tout ça. Mais quand une équipe est perçue comme étant tellement dominante, comme les Russes l'étaient, avec les noms que tout le monde connaissait dans ce temps-là, et pas beaucoup de noms de l'équipe canadienne ou de l'équipe américaine, à ce moment-là, ben, tout le monde pensait que les Russes étaient pour gagner sans trop de problèmes. Et ce qu'ils avaient fait durant les matchs précédents démontrait justement ça. Alors, quand nous, on a été, après deux périodes, on gagnait 3-2. On a finalement perdu 6-4. Mais le fait qu'on soit capable d'être dans le match puis d'être en avant 3-2 durant le match, je pense que si les Américains regardent ça, ils se disent, ben, si eux autres sont capables de faire ça, évidemment que nous autres, on est capables.
Est-ce que vous y avez cru à la possibilité de battre les Russes le 20 février, deux jours avant le Miracle on Ice, alors que vous meniez au pointage?
Évidemment qu'on l'a cru. Je pense qu'il n'y a personne dans la chambre qui pourrait dire qu'il n'y croyait pas. Maintenant, on ne peut pas évaluer jusqu'à quel point que les joueurs le croyaient. Mais je pense que ça donne rien d'aller dans un tournoi si tu ne penses pas que tu puisses gagner. Et étant donné qu'on joue pas une saison contre les Russes, c'était pas une question d'évaluer qui a la meilleure équipe sur une période de 10 matchs ou sur une période de 15 matchs. Tu joues un match contre l'équipe, puis n'importe quoi peut arriver. Au cours du tournoi, on a vu que Tretiak était pas aussi solide que peut-être nous autres, ce qu'on s'était imaginé de ce qu'on avait vu dans les
compétitions précédentes.
C'est ça. Il y avait le match de Tretiak contre les Canadiens là, la veille du jour de l'an. Il y avait la série Canada, Coupe Canada de 1976. La série 72. Alors, ce qu'on s'imaginait de Tretiak, on disait, ben, il était perçu dans le temps comme probablement le meilleur au monde, sauf que c'était difficile de le comparer parce qu'il jouait pas contre les mêmes équipes.
Puis on le voyait pas si souvent que ça à télé, fait qu'on voyait pas ces mauvais matchs. Hein?
C'est ça,
on
c'est
le sait
ça.
Maintenant que même les grands ont des mauvais matchs.
C'était dans le temps de la guerre froide. Les Russes avaient envahi l'Afghanistan à ce moment-là. Il y avait un contexte politique qui faisait en sorte que c'était quand même mystérieux.
Tu te souviens-tu du tour de glace dans ce qu'on appelle le warm-up, la période d'échauffement, le jour du 20 février quand tu affrontes les Russes? Y a-t-il un sentiment particulier? T'y regardes-tu différemment d'un adversaire dans les juniors majeurs du Québec alors que tu joues pour Shawinigan? Je veux dire, l'ambiance va être vraiment différente un peu, non?
L'ambiance était définitivement différente parce que je faisais exprès de ne pas regarder parce qu'à un moment donné, je veux pas être impressionné par l'équipe adverse, pas être impressionné par Tretiak, qui était dans le fond un peu mon idole pour avoir joué dans la série du siècle en 72. À ce moment-là, ben, tu dis, ben, on s'en va jouer un match, puis je me dois d'être meilleur que lui durant le match. Puis je suis capable d'être meilleur que lui durant le match. Puis après ça, ben, on verra ce qui va arriver. Fait que tu peux pas regarder en disant, ben, je me demande ce qui va arriver. Ils ont de l'air fort. Lui lance pas mal fort. Sont lancés. Ils ont de l'air à passer beaucoup.
Faut pas que tu te mettes dans cet état d'esprit-là. Est-ce que c'est un peu un cadeau de la vie? T'étais gardien régulier des Cataractes de Shawinigan. T'étais pas destiné à jouer pour l'équipe canadienne cette année-là. C'était un concours de circonstances qui fait que tu t'es retrouvé dans cette situation-là en l'espace de quelques jours, quelques semaines, tout au plus.
Ouais, c'est quelques mois. Je pense que l'équipe canadienne, qui était une équipe qui pratiquait et jouait des matchs d'exhibition, eux autres, ils pratiquaient tout ensemble là, durant l'année à Calgary. Puis, à un moment donné, à l'approche des Olympiques, 2-3 mois avant, Tom Watt a fait du recrutement. Il s'est promené un peu partout à travers le Canada. Puis, il cherchait un troisième gardien pour compléter l'équipe. Alors, à partir du moment qu'ils ont demandé la permission à mon coach Ron Rassette, là, de Shawinigan, à savoir est-ce qu'ils peuvent emprunter Paul Pageot pour certains matchs d'exhibition. J'ai joué certains matchs, tous les matchs que j'ai joués, mais ça a bien été.
Mais l'idée d'aller aux Olympiques, c'est quelque chose qui t'accrochait, qui t'avait stimulé?
Au début, non, parce qu'au début, il n'y avait pas eu d'équipe canadienne aux Olympiques pour, je pense, c'était les 12 dernières années, parce que Hockey Canada avait justifié de ne pas envoyer d'équipe, étant donné qu'ils vont aller se faire battre contre des joueurs qui sont pas officiellement professionnels, mais dans le fond, c'est comme des professionnels. À ce moment-là, ça vaut la peine d'envoyer une équipe. Alors, le Father Bauer, le père Bauer, qui était un des grands de l'histoire du hockey au Canada, avait convaincu d'autres personnes de faire une équipe pour cette année-là. Et tout ça, en préparation pour les Olympiques. Puis, quand j'ai eu la visite là, de Tom Watt, qui m'a demandé si j'étais intéressé, j'étais pas nécessairement au courant de quoi exactement ce que c'était. Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est exactement? Il m'a dit, c'est les Olympiques, là.
J'ai dit, tu parlais anglais?
Un petit peu. Ouais. J'ai dit, les vrais Olympiques, comme les contre les Russes, les vrais Russes. Et c'est-tu d'autres joueurs que les Russes que je connais qui vont jouer là? Non, c'est les vrais Russes. Puis, fait que c'était un peu comme ça que ça s'est développé. Fait que, suite à ça, quand je me suis aperçu que j'avais la possibilité de jouer contre les Russes. Mais à ce moment-là, là j'ai été excité. Puis là, ben, je travaillais, j'aime pas dire que je travaillais plus fort dans les pratiques, mais un petit peu plus fort dans les pratiques. Fait que le matin, on avait de la glace qui était disponible. Alors, j'embarquais sur la glace à tous les matins.
Puis de fil en aiguille, tu deviens deuxième gardien, finalement, pas troisième, puis t'embarques dans l'aventure olympique.
C'est ça. Je pense que la façon que les matchs se sont déroulés, les matchs d'exhibition et tout. Le dernier match était au Forum à Montréal contre les Tchécoslovaques et les frères Statini. Puis l'autre gardien de but, Bob Dupuis, avait commencé le match. Puis il y avait eu un genre de controverse un petit peu parce que j'étais le seul joueur québécois. Puis suite à ce match-là, les gens se demandaient pourquoi ils ont commencé Bob Dupuis, puis pas donner la chance à Paul Pageot de commencer le match.
Dupuis venait d'où, lui?
Il venait de North Bay.
OK.
Alors,
un franco-ontarien ou il...
Non, son nom était francophone, par contre, mais il était anglophone.
OK.
Fait que c'est un peu ce qui est arrivé. Puis après ça, ben, étant donné que j'avais joué quand même certains bons matchs durant le tournoi pré-olympique et tout, c'est là qu'ils m'ont dit, tu vas être deuxième, puis possiblement que tu vas avoir la chance de jouer durant les Olympiques.
C'était quoi le sentiment d'être le seul francophone d'une équipe canadienne à ce moment-là, puis qui arrive un peu à la dernière minute dans un groupe qui est déjà formé?
Ben, c'était définitivement une fierté, puis je me suis aperçu de ça que j'étais le seul francophone, pas autant durant les matchs que j'ai joué, autant que quand il y a eu cette controverse-là suite au match au Forum. C'est là que
c'est devenu une histoire.
C'est devenu une histoire que j'étais effectivement le seul francophone. Puis quand on était aux Olympiques, ben, j'étais le seul interviewé par les médias francophones. Fait que c'est définitivement une fierté d'avoir fait partie de l'équipe à ce moment-là, puis de représenter le Canada.
Glenn Anderson, des noms là, qui faisaient partie de cette équipe-là dans le temps. Là, je mentionne quelques noms connus. Randy Gregg, il y avait Warren Anderson, Kevin Maxwell, Paul McLean, écoute, Jim Neal, qui est DG maintenant des Stars de Dallas, juste pour donner une petite idée, bien accueilli par ce groupe-là, comme seul francophone quand même. Eux autres, ils voulaient un bon gardien qui arrête les rondelles, dans le fond.
Ben, c'est ça. Fait qu'eux autres, c'est des joueurs de hockey qui veulent gagner, puis ils vont souhaiter la bienvenue à n'importe qui peut se joindre à l'équipe si ça donne une chance de plus de gagner les matchs. Ils étaient là pour définitivement se qualifier pour la ronde des médailles, puis ensuite de ça, ben gagner une médaille, puis possiblement la médaille d'or.
Nous sommes en compagnie de Paul Pageau, amateur de sport ce soir, alors qu'on remonte 40 ans en arrière, le 40e anniversaire du Miracle on Ice, du miracle sur glace, la victoire des Américains sur l'Union soviétique à l'époque était une victoire en demi-finale. Il fallait encore gagner la médaille d'or contre la Finlande dans le match suivant. On va faire une courte pause et on va vraiment replonger comment tu l'as vécu, le miracle sur glace, où tu étais très, très bien placé, bien sûr, pour l'observer. Puis ce que les joueurs du Canada prenaient pour les États-Unis, je suis curieux de savoir ça. On vient tout de suite. Nous voilà de retour avec notre invité ce soir, Paul Pageau, qui était un des deux gardiens de l'équipe canadienne de hockey sur glace aux Jeux olympiques de 1980. Paul, qui a terminé sa carrière professionnelle avec les Canadiens de Sherbrooke, qui avait passé dans le junior par les Remparts de Québec, par les Cataractes de Shawinigan. Paul, t'étais aux premières loges, tu venais de jouer ton match contre les Tchèques la même journée. On venait de passer dans la phase suivante là, du tournoi préliminaire. Puis là, vous décidez, les gars de l'équipe canadienne, de rester puis d'assister au match. C'est quoi le souvenir? Y a-t-il quoi de magique comme spectateur, même si t'étais pas un joueur, ce match-là?
C'était magique puis c'était drôle en même temps. Parce que ce qui est arrivé, c'est que suite au match, j'ai été choisi pour le test d'antidopage. Alors, on vient me chercher dans la chambre, les autres joueurs pouvaient quitter. Puis, moi, ils m'amènent dans une autre chambre, j'arrive là, puis le joueur de la Tchécoslovaquie, de l'équipe contre qui on avait joué.
Un joueur de chaque club?
Un joueur de chaque club. Puis, on arrive là, puis on vient de finir le match, puis il nous demande d'uriner dans la petite bouteille et tout. Puis, le match vient de finir, fait que t'as pas envie, rien de ça. Fait qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a une caisse de bière là, prenez de la bière, puis jusqu'à temps que vous puissiez vous soulager. Fait qu'on a pris une coupe de bière, puis jasé un petit peu au mieux qu'on pouvait. Son anglais était définitivement meilleur que mon tchèque. Et on a jasé un petit peu, puis suite à ça, je devais aller avec une entrevue avec Claude Mayotte sur la galerie de presse. Fait que j'étais sur la galerie de presse pour une partie du match, justement quand Tretiak s'est fait enlever pour mettre
Michkin
dans le filet. Alors j'étais là sur la galerie de presse à ce moment-là, puis je suis demeuré dans l'amphithéâtre là, jusqu'à la fin du match.
Prenais-tu pour les Américains?
Je prenais pour les Américains, puis il y avait un petit bout de peut-être de jalousie du fait que ben eux autres sont capables de faire ce que nous on a tenté de faire, on voulait faire
deux jours avant.
Mais ce qui prouvait dans le fond que les Russes pouvaient être battus, ils ont prouvé dans le fond que les Russes pouvaient être battus. C'est arrivé à cette partie-là.
C'était quoi la fin du match-là? On a entendu au début de l'entretien la description de la dernière minute de jeu alors que les Américains s'en vont vers une victoire. C'était quoi de vivre ça sur place?
Ben évidemment, la foule était en folie. Il y a des gens qui viennent de partout et tout ça, mais vu que c'est aux États-Unis, vu le contexte, je mentionnais, c'était la guerre froide du temps. Il y avait les Russes qui avaient envahi, ou l'Union soviétique qui avait envahi l'Afghanistan. Alors, il y avait un côté politique du match. Évidemment, les joueurs pensaient pas à ça, mais quand tu te prépares pour un match, puis que tu t'en vas jouer contre les Russes, puis tu portes le chandail des États-Unis, ben c'est pas nécessairement complètement concret, mais c'est évident qu'il y a quelque chose à l'arrière dans ta tête qui se dit, ben faut définitivement battre les Russes. Alors, je pense que il y avait ce contexte-là qui aidait aussi à l'euphorie qui est arrivée avec gagner ce match-là.
Est-ce que ça criait fort? Est-ce que c'était exubérant, les manifestations? Tu viens-tu de ce que les joueurs ont fait sur la glace?
Non, je me souviens pas nécessairement. Évidemment, c'était la grosse fête là du côté des Américains, là, parce qu'eux aussi se sentaient comme nous. Puis probablement que les médias américains, avant les Olympiques, disaient d'eux la même chose que les médias canadiens disaient de nous. Ils s'en vont se faire planter. Pourquoi on envoie une équipe là? Les Russes sont tellement plus forts, les Tchèques et tout et tout. Alors, c'était l'euphorie là, pour les joueurs. Là, c'est comme s'ils avaient gagné la médaille d'or à ce moment-là. C'était le sentiment là à ce moment-là qu'ils avaient monté la plus grosse côte qu'ils avaient à monter, c'était fait.
Lake Placid, Ken Reed était le porte-drapeau du Canada à ce moment-là.
Il y avait Gaétan Boucher.
Gaétan Boucher, bien sûr, sur l'anneau de glace, face à Eric Heiden, chez lui, hein, aux États-Unis.
C'est ça, il y avait Sylvie Daigle.
L'anneau de glace est juste à côté de l'aréna, d'ailleurs.
Juste alentour de
l'aréna. Est-ce que tu as regardé des compétitions?
Oui, on essaie évidemment d'encourager Gaétan. Wow. Parce que c'est encore là, c'est là à ce moment-là, je savais que j'étais le seul Québécois sur l'équipe de hockey, mais j'étais pas le seul Québécois aux Olympiques représentant le Canada. À ce moment-là, ben c'est évident que les Québécois se tiennent un petit peu plus puis s'encouragent un peu plus, dont Gaétan, Sylvie Daigle et tout ça.
As-tu un album souvenir, des photos que tu regardes avec les enfants, petits-enfants, si petits-enfants il y a? As-tu quelque chose de précieux qui est lié à cette participation-là en 1980?
En quelque part, j'avais à un moment donné une cassette VHS qui m'avait été donnée par un des propriétaires de l'équipe des Cataractes de Shawinigan, qui m'avait remis ça en souvenir. Je l'avais perdu, je l'avais prêté à quelqu'un, il m'était pas revenu, puis tout ça. Puis j'avais eu une version anglaise qui était en deux parties. En tout cas, sur le nombre d'années, j'ai eu quelques différentes versions. Puis là, ben les VHS sont pas nécessairement autant là à la mode.
Non. Faut que tu fasses transférer ça. Là.
C'est ça.
Un appel à toi. As-tu un chandail? As-tu gardé d'autres des souvenirs?
Non, j'ai pas de chandail. J'avais demandé le hockey de Tretiak après le match. Je suis allé voir à la chambre là, des Russes après le match pour demander son hockey. Je l'ai gardé, je l'ai donné.
Est-ce lui qui est venu te le donner? Non?
C'est lui qui est venu à la porte. J'avais demandé quand on s'est serré la main, mais il comprenait pas trop ce que je disais. Je suis retourné à la porte là, de leur chambre suite au match. Puis il est venu à la chambre, il m'a donné un match, il a autographié ça. Puis je l'ai donné à quelqu'un pour le mettre au rustique à Châteauguay. Puis suite à ça, ils ont fait un encan de la Fondation Rêve d'enfant, puis ça a été donné à ce moment-là, à la Fondation Rêve d'enfant.
Wow.
J'ai quelques souvenirs, là, mais c'est
plus... Les plus précieux sont dans le cœur et dans la tête.
C'est ça.
Hein?
C'est ça. Quand je parle à mes enfants de Tretiak, ils savent pas c'est qui.
Non. Comme probablement beaucoup de gens qui nous écoutent, mais là, peut-être que ça va se transmettre de génération en génération. Il y a des plus âgés qui savent très bien de quoi nous parlons depuis le début de cet entretien-là. Il y en a pour qui, ben peut-être que c'est évidemment plus lointain, mais c'est un gros morceau de l'histoire du hockey, nécessairement, et de ta vie personnelle et de ta carrière d'hockeyeur, Paul.
C'était définitivement un gros morceau. Puis je pense que autant la série du siècle a été importante pour le Canada, autant le Miracle on Ice a été important pour le développement du hockey aux États-Unis. Il y a eu le film également qui a suivi. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que, quand on regarde dans la Ligue nationale aujourd'hui, il y a plus de joueurs américains qu'il y en avait dans ce temps-là. Puis ça garde les choses frais dans notre esprit.
Ces Olympiques-là, quelle place ça prend dans tes mémoires de hockey puis de vie, tout simplement, Paul Pageau, aujourd'hui?
Ouais, c'est probablement la plus grande place parce que suite à ça, on a gagné la Coupe Calder avec Patrick Roy, avec le Canadien de Sherbrooke. Patrick a fait plus de travail que moi, j'en ai fait cette année-là. J'ai joué un match dans la Ligue nationale. Malheureusement, j'ai perdu le match 8-1 avec les Kings de Los Angeles contre les Islanders de New York. Et mon seul highlight, comme je pourrais dire, de ce match-là, c'est que Mike Bossy a pas compté. fait que c'était ma carrière dans la Ligue nationale. Ensuite de ça, j'ai joué dans la Ligue américaine et tout ça. Mais quand je regarde en arrière, la participation aux Olympiques, de jouer contre Tretiak, de jouer contre les Russes et de participer à un tournoi tel que les Olympiques, là, c'est extraordinaire.
Et en terminant, je me dois de te poser la question, Paul Pageau. Crois-tu au miracle? Do you believe in miracles?
Évidemment que je crois au miracle.
Merci beaucoup, Paul. Ça fut un grand plaisir de te recevoir en studio, 40 ans plus tard.
Ça me fait plaisir. Merci.
Merci. Notre invité était Paul Pageau, qui a participé aux Jeux olympiques de 1980 avec l'équipe canadienne de hockey sur glace. Et on se rappelait le miracle sur glace. Merci d'avoir été là, tout le monde. Dans quelques instants, place à Bonsoir les sportifs. Ciao et à bientôt.